avec Jean-Simon Buis.
Il est 5h du matin. Bon matin à tous. Merci d'être là. Toujours un plaisir de vous parler. Déjà le milieu de la semaine, on est mercredi 27 novembre 2019. Il ne reste que quelques jours avant d'arriver au mois de décembre. Et c'est encore doux côté météo. On a encore droit à des températures agréables pour le temps de l'année, bien entendu. Mais franchement, à ce temps-ci de l'année, il n'y a rien là de sortir à 2-3 degrés alors qu'on a connu plus froid déjà cette année. Par contre, je vous avise, faites un petit peu attention là, sur les routes. Il est tombé un petit peu de bruine hier soir. Et comme les mercures ont descendu aux alentours de moins 4, moins 5 cette nuit, ça fait en sorte que c'est un peu gelé sur la chaussée. Donc, c'est un petit peu plus glissant sur la chaussée. Faites attention, là, il y a un petit peu de glace. Là. C'est pas très visible non plus. C'est pas la fin du monde non plus, là, mais faites tout de même un petit peu plus attention qu'à l'habitude. À la météo, aujourd'hui, on prévoit un maximum de 2 degrés, donc on est encore au-dessus de zéro. Des nuages, par contre, pour la journée, il n'y a pas de soleil. On en prévoyait un peu au début de la semaine, là, mais là, sans vraiment que ce soit des nuages avec 2 degrés. La nuit prochaine, on devrait avoir un peu de neige, accumulation de neige prévue de 5 cm avec un minimum de moins 1. Jeudi, on va grimper à 3. C'est la journée la plus chaude de la semaine et peut-être la plus chaude avant un bon bout de temps, parce que par la suite, on va redescendre en sous de zéro dans les jours qui vont suivre. Vendredi, moins 2 comme maximum avec du soleil. Samedi, du soleil maximum de moins 3 et dimanche également du soleil avec moins 4. Donc une belle fin de semaine en perspective, mais un peu plus froide que cette semaine. Et présentement, on est aux alentours de moins 1 au mercure, mais on ressent vraiment pas beaucoup de froid là présentement. C'est super agréable, vous allez le constater en sortant à l'extérieur. Dans l'actualité, pas mal de nouvelles ce matin. Il y en a 4 que j'ai retenues principalement là, pour alimenter vos discussions. Ce matin, il y a eu pas mal de grenouillages à l'hôtel de ville hier. Il y avait point de presse du maire Labeaume qui s'est exprimé notamment sur la pénurie de main-d'œuvre à la ville de Québec. Et ça risque d'être un problème assez important parce que dans les 5 prochaines années, il y a 1050 postes qui vont être à pourvoir au sein de la ville de Québec. Des départs à la retraite, essentiellement. Là. 25% des employés de la ville de Québec vont être admissibles à la retraite dans les 5 prochaines années. Vous comprenez le problème? Présentement, on a de la misère à trouver de la main-d'œuvre dans tous les secteurs. Et là, vous allez avoir un paquet d'employés expérimentés qui vont partir en bloc, ce qui va faire en sorte qu'on va devoir les remplacer nécessairement. Et on admet du côté de la Ville de Québec que ça va être un défi. D'autant plus que justement, ces employés-là, ben, c'est des gens qui partent à la retraite. Si tu prends des vertes recrues qui sortent de l'université, ben, t'as pas nécessairement le niveau d'expertise que tu voudrais avoir dans certains domaines. Ça va de soi, bien entendu. Et comment on va faire pour les attirer, ces gens-là, ces jeunes-là, puis ces employés-là, alors que présentement, la plupart des emplois leur sont offerts sur un plateau d'argent? Ben, le maire Labeaume a admis hier que ce serait un défi et qu'il allait falloir mettre en place plusieurs mesures incitatives.
C'est un grand défi. Un très grand défi, puis ça va être compliqué. Puis je vous le dis, là, avant, tu sais, regarde au RTC, c'est pas évident, mais aujourd'hui, de trouver des chauffeurs, c'est ce que Rémy me disait. Avant, tout le monde voulait travailler de Québec parce que c'est là qu'étaient les meilleures conditions. On a encore des conditions excellentes, mais là, c'est le monde à l'envers. Parfois, qu'on fasse tout pour les attirer parce que le monde a le choix actuellement. Le monde a le choix.
Et là, parmi les mesures qu'on évoque, ben, il y aurait l'aménagement de l'horaire de travail, télétravail, peut-être la possibilité de travailler à la maison. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait attirer certaines personnes. Mais pour l'instant, c'est un casse-tête pour la ville de Québec. Évidemment, l'opposition s'est exprimée là-dessus et a dit, ben là, c'est un excellent moment, compte tenu des départs à la retraite, de faire un dégraissage, c'est-à-dire de pas nécessairement remplacer tout le monde. D'autant plus que le maire Labeaume, quand il est arrivé en poste à la mairie, ben, il avait dit qu'il allait couper plusieurs postes puis qu'un de ses objectifs, c'était de couper, de sabrer dans la main-d'œuvre à la Ville de Québec. On écoute le chef de l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville, Jean-François Gosselin.
Et là, avec ce que je vois aujourd'hui dans le document, avec les chiffres qui nous sont présentés, le maire a une occasion en or de réaliser son objectif qu'il s'était lui-même fixé lorsqu'il est arrivé à la mairie de Québec. Et ce que je lui demande aujourd'hui, c'est de nous déposer un plan pour justement venir réduire les effectifs et profiter de ces départs à la retraite-là pour venir dégraisser l'appareil administratif.
Il semble que Régis Labeaume dise que ce soit pas vraiment ça qu'il faut effectuer dans les prochaines années, au contraire, et que de toute façon, il a déjà respecté ses promesses quant à ça. Alors, on écoute le maire Labeaume répondre à Jean-François Gosselin là-dessus.
Je sais pas ce qu'on peut faire de mieux, là. 54% d'augmentation du budget, hein? Donc, en principe, 54% d'augmentation d'activité. Augmentation de la population de 25%. Ça, c'est des clients pour nous autres qu'il faut servir. On augmente la productivité de 40%. Le nombre d'employés est plus bas qu'il y a 10 ans à Québec. Je ne sais pas ce qu'on peut demander de plus. Et il y en a qui essaient de nous faire croire qu'on peut dégraisser. Imaginez-vous donc. Faut-tu rien connaître dans la vie, avoir rien géré
pour faire des affaires de merde?
Sauf que le maire Labeaume s'était engagé à couper 500 postes à son arrivée à la mairie. Mais quand vous regardez les équivalents à temps complet, là, on a les chiffres dans le soleil ce matin, là, équivalent à temps complet, donc l'équivalent des employés qui travaillent à temps plein, en quelque sorte. Là. Ben, quand vous regardez en 2008, il y avait 5261 équivalents à temps complet. Puis là, en 2020, il va en avoir 5116. Donc, ça c'est pas énormément différent. Là. Mais le nombre d'employés aurait diminué. On dit au prorata de la population parce que, c'est ça, la ville dit que si sa population n'avait pas grossi, il y aurait aujourd'hui moins d'employés municipaux. Donc, au prorata de la population, il y aurait moins d'employés présentement. Là. Donc, c'est un peu jouer avec les mots. Mais il reste qu'il y aura des défis dans les prochaines années parce qu'ils vont perdre des cadres, ils vont perdre une main-d'œuvre spécialisée. Donc, il va falloir trouver rapidement des gens pour combler ces postes-là à la ville de Québec. Il y a eu une bonne nouvelle hier matin alors que du côté des agriculteurs, il y avait beaucoup d'inquiétudes. Vous savez, on a parlé un peu de la pénurie de propane qui touchait notamment les producteurs de grains au Québec qui en ont besoin pour sécher leurs grains. Puis là, il y avait une grève du côté des cheminots du CN. Plus de 3000 employés du CN qui étaient en grève depuis la semaine dernière. Et là, ça faisait en sorte qu'il y avait seulement les services essentiels qui pouvaient utiliser du propane au Québec. Donc, l'éducation, la santé. Et les producteurs de grains étaient laissés un peu sur les lignes de côté. Ben là, il y a une entente de principe qui est survenue. Donc, soulagement, bien entendu, du côté des agriculteurs. Ça a compté de 6 heures ce matin. Donc, dans moins d'une heure que les livraisons vont pouvoir repartir. Donc, la normale, on va pouvoir retourner à la normale tranquillement du côté des producteurs de grains. Mais le mal est déjà fait. Ça n'a pas été une saison facile du côté des producteurs. D'ailleurs, il y en a un, Christian Paradis, un producteur de grains, qui explique, bon, évidemment, c'est une bonne nouvelle pour eux parce qu'ils vont pouvoir poursuivre leur travail. Sauf que il y a déjà des inconvénients qui sont encourus.
On est soulagé. Là, c'est juste un temps. On ne sait pas quand on va terminer. On a la météo 7 jours, donc on est pas mal sûr, mais dans 14 jours, les nuits et les journées vont être beaucoup plus froides. Le produit va être plus long à sécher, plus dispendieux à sécher. T'sais, on s'enligne, ben, c'est pas une catastrophe, là, mais je pourrais dire pratiquement. Là.
J'ai débaptisé monsieur Roy, parce que j'ai dit monsieur Paradis, là, mais c'est Christian Roy, le producteur de grains qu'on vient entendre, qui ont droit à une saison froide accompagnée de cette pénurie de propane. Donc, on leur souhaite d'être capable de reprendre rapidement le travail et de pouvoir encourir le moins de pertes possible. Ça, c'est terminé du côté de la grève du CN à cause de l'entente de principe. Donc, tout devrait rentrer à la normale. Quelque chose qui n'est pas terminé. Ça, on savait que ça allait se poursuivre et que ça allait prendre encore beaucoup de place dans l'actualité dans les prochains mois, les prochaines années. C'est la laïcité. La loi 21 qui ne fait pas l'unanimité, qui est devant les tribunaux présentement. Et il y a plusieurs organismes qui sont en appel devant la cour d'appel présentement pour qu'on invalide en ce moment les dispositions de la loi en attendant que le débat juridique se fasse. Et ça pourrait prendre plusieurs années. Si on pousse ça jusqu'à la Cour suprême, vous comprenez que c'est un débat judiciaire qui est loin d'être terminé. Et là, il y a plusieurs groupes qui étaient présents hier devant la Cour d'appel pour présenter des arguments. Et là, le nouvel argument qu'ils ont, c'est que la loi serait sexiste. Selon eux, ça contrevient à l'article 28 de la Charte canadienne des droits et libertés. Ça, c'est sur l'égalité entre hommes et femmes, l'égalité des sexes. Et eux, ils disent, ben, ça touche surtout les femmes, et ça fait en sorte que certaines femmes qui ont toutes les compétences requises pour travailler ne peuvent pas travailler en raison de leur signe religieux. Alors, c'est ce qu'ils ont argué devant la Cour d'appel hier. D'abord, parmi les organismes qui étaient là, il y avait le Conseil canadien des musulmans qui était présent. Je vous invite à écouter Bokra Banaï, qui est une des représentantes du Conseil des musulmans, et voici un peu son argumentation.
Perdre espoir complètement après avoir étudié pendant des années, devoir peut-être déménager dans une autre province du Canada pour enseigner, ben on pense que c'est un préjudice qui est assez important.
Et d'ailleurs, sur place, il y avait des certaines enseignantes qui se sont exprimées aussi et qui, elles aussi, disent faire vivre un préjudice en lien avec la loi 21. Je vous en fais écouter une. C'est une enseignante avec le voile. C'est pas trop spécifié la façon dont elle a perdu son emploi parce que vous savez qu'il y avait une clause grand-père là, pour les enseignantes qui étaient déjà en poste. Donc, j'ai déduit que c'était une enseignante qui venait de rentrer, qui voulait rentrer dans les rangs de l'éducation au Québec et qui a refusé d'enlever son voile. Et voici les conséquences pour elle.
Et j'ai perdu mon travail à cause du voile, c'est clair. Ils m'ont demandé d'enlever le voile. J'ai refusé, bien sûr. Ben, c'est très injuste. C'est de la discrimination. Et je suis québécoise, musulmane. J'ai tout à fait le droit de travailler. J'ai les compétences.
Oui, effectivement, elle a le droit de travailler. Ça, il n'y a personne qui nie ça. Par contre, je vous rappelle que suite aux dispositions, il y a des femmes, c'est à Montréal essentiellement que ça concernait, là, que les cas ont été trouvés de femmes portant le voile et, ou de portant des signes religieux. Et il y en a qui ont accepté de le retirer pour poursuivre leur travail. Donc, dans son cas, la dame a fait le choix de ne pas le faire. Maintenant, ce qui est certain, c'est que si la Cour d'appel, par exemple, décide d'invalider les mesures en place de la loi 21, bien, ça risque de créer un branle-bas de combat un petit peu, là, de changer un petit peu la donne en ce moment. Ce qui est certain, c'est que sur le plan judiciaire, la loi risque d'être contestée encore encore longtemps. Donc, on n'a pas terminé d'entendre parler de laïcité au Québec, même si c'est un débat qu'on a depuis plus que 10 ans. Ben oui, c'est dur à croire, là. Mais on peut pas encore dire qu'on a le point final au débat sur la laïcité au Québec. En terminant, la une du soleil ce matin, je me demandais si on allait le mettre à la une, mais je pense que c'est justifié, parce que ça crée quand même une éclipse médiatique hier à Québec. La fermeture d'une institution sur Grande Allée. Les réseaux sociaux se sont emparés de ça très, très rapidement. La fermeture du restaurant Ashton sur Grande Allée qui a été annoncée, fermeture définitive. Et c'est un peu la fin d'une époque pour plusieurs personnes. C'est la fin de souvenirs. Ça rappelle beaucoup de souvenirs à des gens qui sont sortis sur Grande Allée jusqu'à tard le soir et qui allaient manger la traditionnelle poutine pour se sentir un petit peu moins mal le lendemain matin. Et qui ne pourront plus le faire à côté d'aujourd'hui. Parce que ce n'est plus rentable. La Grande Allée a changé. C'est ce qu'Ashton Leblon, le propriétaire, expliquait. Souvenez-vous, il y a pas longtemps, il y a quelques semaines à peine, il y avait eu une nouvelle concernant Ashton, concernant une majoration du prix de la poutine pendant la nuit, 12% de plus, dans deux restaurants, Grande Allée et celui de Saint-Roch, justement pour attirer de la main-d'œuvre pour travailler sur les chiffres de nuit. Ben, ça n'aura pas été très, très long que le constat soit effectué du côté de Grande Allée, que ça fonctionnerait pas, qu'il n'y avait pas assez de demandes présentement pour de la nourriture de nuit sur Grande Allée. Plusieurs facteurs en lien avec ça. Bien évidemment, il y a moins de clubs, il y a moins de bars où est-ce que les gens sortent très tard. C'est une rue où est-ce que les gens sont peut-être moins fêtards. Avant, ben réellement, les gens sortaient après les bars puis fréquentaient beaucoup le Ashton. C'était une grande partie du chiffre d'affaires qui était fait pendant la nuit. Et là, on a de la misère à joindre les deux bouts par rapport à ça. Derrière cette décision-là, il y a aussi le fait que les propriétaires de l'atelier de l'Ophélia avaient spécifié leur intérêt pour acquérir l'immeuble, oui, le Ashton, et faire une espèce de complexe de restauration. Donc, il y a aussi cette considération-là à prendre en compte. Mais ce qui est certain, c'est que la Grande Allée n'est plus pareille. Ce n'est plus comme avant. Dans le Journal de Québec, ce matin, il y a un historien, Régent Lemoine, qui dit que la Grande Allée retourne à ce qu'elle était. Elle revient à ses racines, en quelque sorte, parce que dans les années 1980, d'après lui, il n'y avait pas beaucoup de fast-food. C'était surtout des restaurants haut de gamme, clientèle plus huppée, fréquentée par des politiciens. Mais finalement, les touristes avaient changé ça. L'ouverture de plusieurs bars avait fait en sorte qu'il y avait énormément de possibilité de manger tard le soir. On passe au McDonald's qui a fermé ses portes en 2015. Et là, ben, le Ashton qui vient de fermer ses portes, ça fait en sorte que ce qui reste, c'est pas grand-chose. Si vous sortez des bars, je pense qu'il reste la galette libanaise qui ferme plus tard. Mais encore là, je pense qu'il ferme plus tôt qu'avant. Là. Même de son côté, là, Tony Tanous de la galette libanaise dit qu'avant, il y avait la plus grande partie, 80% du chiffre d'affaires du commerce qui était réalisé après 21h, alors que c'est complètement viré aujourd'hui. C'est 80% du chiffre d'affaires qui est fait sur l'heure du midi. Alors, la réalité n'est plus la même. Les fêtards migrent, notamment sur la rue Saint-Joseph, où est-ce qu'il y a plus d'opportunités pour eux de fêter. Et évidemment, ben, on a posé la question au maire Régis Labeaume hier concernant la fermeture de cette institution, la fermeture du Ashton. Qu'en pense-t-il, M. Labeaume? Voici ce qu'il avait à dire.
On m'avait informé de ça. Je savais que... écoutez, moi, à l'âge que j'ai là, je coupe les bords, là, je peux bien vous en parler. Je pourrais vous présenter mon fils qui pourrait vous en parler. Ça fait longtemps qu'on sait que... Pour les jeunes, ça déconcentre. Hein? C'est Limoilou, Saint-Sauveur. Et les jeunes vont souvent dans les bars de banlieue. Alors, Ashton, sa Grande Allée, on savait que sa clientèle, disons que c'était après 9h. Seulement le midi, ça marchait pas, disons. Ça, ce que je comprends, c'est qu'il y a moins de jeunes qui vont veiller sa Grande Allée.
Mais ça s'est transposé ailleurs, c'est ce que vous dites. Qu'est-ce que ça dit sur l'état de Grande Allée actuellement pour les commerçants?
Oh, je l'ai déjà dit, c'est à eux autres de décider quelle sorte de rue qu'ils veulent.
Alors, c'est ça. Plus de Ashton sur Grande Allée. C'est la fin d'une époque en quelque sorte. Alors, où est-ce qu'on va maintenant si on fête sur Grande Allée pour manger, casser la croûte suite à une soirée bien arrosée? 25-226, vous avez des idées. Là, je sais qu'il y a des couches très tard parmi les auditeurs de l'Amorce. Donc, si vous avez des options de snacks, de petits repas après des soirées plus arrosées, ben, indiquez-le parce que le Ashton ne sera plus une option sur Grande Allée. 5h14, on prend une courte pause. Au retour, on va discuter de sport. Le Canadien a subi toute une dégelée hier.
La chronique de Pierre-Yves McSween dans Bouchard en parle.
Lundi au vendredi, 7h25.
Au FM 93.
La chronique de Pierre-Yves McSween, présentée par Ginsburg Gingras. Surmontez vos dettes. Contactez gratuitement un syndic autorisé en insolvabilité de Ginsburg Gingras. GinsburgGingras.com/dette.
La vitre de votre iPhone est cassée. Votre sel marche plus? Passez chez Télution. Ils changent les vitres, batteries, connecteurs, souvent en 15 minutes et ils ont maintenant une section de cellulaires usagés. Télution sur Saint-Sacrement, Saint-Jean, à Saint-Romuald et maintenant à Charlebourg. telusion.com.
J'en ai appris sur les meubles lors de ma visite chez Meubles Zip International. 95% de leurs meubles rembourrés, divans, causeuses, fauteuils sont faits en Amérique, dont au Canada. Parce que chez Zip, ils veulent nous offrir des meubles qui vont durer des années et des années. Entre autres, Zip vous offre tous les produits Canadel. Des meubles québécois entièrement personnalisables. La longueur de la table, hauteur des chaises, le style, les couleurs. Il y a un seul magasin comme ça à Québec, c'est Meubles Zip International, coin Amel et Henri IV. Visitez le nouveau site web zipinternational.ca.
Vous connaissez Resto Pizza? Les succulentes pizzas congelées qu'on reconnaît à leur boîte rouge? On se régale déjà des pizzas garnies bacon, côte levée et poulet bacon. Mais là, à la demande générale, Resto Pizza nous offre maintenant la nouvelle Resto Pizza du chef. Vous ajoutez vos garnitures préférées, bacon, saucisse italienne, oignon rouge, poivron vert, basilic. Les possibilités sont infinies. Réveillez le chef qui sommeille en vous et impressionnez vos invités.
La toute nouvelle Resto Pizza du chef, disponible en épicerie.
Oui, allô?
J'ai tes enfants.
Hein? Quoi, comment ça?
Je les ai pris à la garderie.
Mais c'est quoi cette histoire-là? Qui parle?
C'est ta mère.
Gorge irritée? Les pastilles Valda. Pour un soulagement temporaire. Offerte en pharmacie.
Disponible cette semaine chez votre pharmacie Family Prix à seulement $5,99 pour le boîtier de 50 pastilles. Tous les détails dans votre circulaire Family Prix. Valda soulage les irritations de la gorge depuis 1904.
Toujours lire l'étiquette et suivre le mode d'emploi.
La boutique érotique au 7e ciel du marché Jean Talon fête ses 10 ans et se refait une beauté. Venez fêter ça jeudi dans une soirée cadeau cocktail avec prix de présence.
Et tout le week-end, profitez de rabais de 20 à 75% dans les deux succursales.
Au 7e ciel.com.
Du 29 novembre au 8 décembre, Desjardins présente le Salon des artisans de Québec au Centre de foire. Découvrez des milliers d'idées cadeaux pour Noël, des créations uniques et des saveurs d'ici. Profitez-en, l'entrée et le stationnement sont gratuits.
Adieu mazout, bonjour énergie renouvelable. Vous souhaitez convertir le système de chauffage de votre habitation par un système alimenté par une énergie renouvelable comme l'électricité? Avec son programme Chauffe et Vert, Transition énergétique Québec vous offre de l'aide financière pour le faire. Optez pour un système de chauffage plus efficace, plus sécuritaire, plus économique et qui n'émet aucun gaz à effet de serre. Inscrivez-vous à chauffezvert.gouv.qc.ca et visez l'efficacité énergétique. Un message du gouvernement du Québec.
Amateurs de bonne viande, ne manquez pas la grande vente d'entrepôt Canabec. Du canard, du cerf, du bison, du kangourou, de superbes produits de gibier à prix imbattable. Venez faire un tour ce vendredi et samedi 29 et 30 novembre à Saint-Augustin. Info au canabec.net.
Et si magasiner sur les grands sites d'achat Internet,
mes écouteurs,
ma tuque, mes jeans,
devenaient la seule option?
Pas les bottes pour toute la famille.
Un manteau.
Un ordi.
Nos commerces locaux, on en a besoin. Et si on veut continuer de pouvoir compter sur eux, ils doivent pouvoir compter sur nous. Cette année, pour nos achats des fêtes, achetons local.
Un casse-tête pour les tempêtes.
Mon ordi. Puis surtout, les conseils pour acheter le bon.
Comme ça, on pourra acheter local encore longtemps.
Méga moto.
Mes souliers rouges.
Un message du FM 93.
L'amorce avec Jean-Simon Buis. Lundi au vendredi, 5h. Au FM 93.
5h18 dans l'amorce, on est mercredi, le 27 novembre 2019. Merci d'être avec moi. À la météo, c'est encore une journée assez douce qui se profile, maximum de 2 degrés avec des nuages. Par contre, je vous souligne qu'il est tombé un peu de pluie hier soir, ce qui fait en sorte que la chaussée est un peu glacée par endroits. C'est un peu plus glissant que d'habitude. Demain, jeudi, maximum de 3 degrés avec des nuages. Et entre les deux, la nuit prochaine, risque de tomber environ 5 cm de neige, donc une petite accumulation. Vendredi, on va rechercher des températures plus froides un peu, maximum de moins 2 avec du soleil. Et pour la fin de semaine au complet, c'est du soleil sur toute la ligne. Samedi, maximum de moins 3, du soleil. Dimanche, moins 4, soleil également. Et en ce moment, on a moins 1 degré à Québec. Bon matin, Dan.
Salut, Jean-Simon.
Un matin qui est bon pour toi, mais moins bon peut-être pour les joueurs du Canadien de Montréal.
Ben, c'est 8-1 le pointage final. Fait que,
ça fesse.
Je comprends qu'il n'y a pas juste des chiffres dans le sport, ouais. Mais à un moment donné, le 8-1, tu peux pas penser que tu as été dans le match très, très longtemps.
Ouais.
Mais je regardais ce match-là hier, Jean-Simon. Puis j'ai eu une pensée pour le 2 décembre 1995. Le 2 décembre 1995, ça a été le dernier match de Patrick Roy dans l'uniforme du Canadien. Un cuisant revers de 11-1 contre les Red Wings de Détroit. Mario Tremblay qui s'obstine à laisser Roy devant le filet.
Ouais.
Et une fois qu'il sort, Roy passe, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, là. Derrière le banc du Canadien, t'avais Ronald Coré qui était le président, qui était assis direct là. Il n'y avait pas de baie vitrée, là. Il était direct derrière le banc. Il pouvait parler au coach, s'il voulait, là. Puis Roy est passé.
Puis là, il est venu pour aller s'asseoir. Il est repassé devant Mario Tremblay. Ils se sont regardés avec des regards là, assassins. Là. Puis il est allé voir Ronald Coré. Puis il a dit, ouais, c'est fini, c'est mon dernier match à Montréal.
Es-tu en train de me dire que tu apparentes le fait qu'on ait laissé Carey Price pendant 5 buts hier à ce match-là?
Non, mais la débandade, je voyais un lien entre les deux matchs.
Okay.
Je pense pas que Price a joué son dernier match à Montréal hier. Mais quand ça allait mal... Puis, à un moment donné, après le cinquième but, celui de Bjorg, à 1 minute 10 du début de la deuxième. Tu comprends-tu qu'il reste quasiment deux périodes au complet?
Oui.
Puis, c'est 5-1 Boston. Il a comme laissé tomber son hockey sur la patinoire, Price, en signe de découragement. Je me suis dit, oh boy, ça ressemble à Patrick Roy, qui, à l'époque, était applaudi quand il faisait un arrêt parce qu'il en faisait quasiment plus. Puis là, lui, il était découragé, il avait levé les bras en voulant dire, ouais, si vous voulez que je fasse, il me laisse ici devant le filet. Et j'aimerais ouais. ça m'en aller, mais je peux pas, tu sais. Quand j'ai vu Price laisser tomber son hockey, je dis, ah non, on vivra pas ce qu'on a vécu en 95. Mais finalement, c'est le contexte de la défaite d'hier qui fait mal. Si tu gagnes deux matchs, t'en perds un, t'en gagnes un, puis tu perds 8-1, c'est pas grave. Si tu perds quatre matchs, puis le cinquième, tu le perds 8-1, là, c'est grave. Parce que tout le monde doute. Tout le monde doute de Bergevin, tout le monde doute de Julien, tout le monde doute de Price, tout le monde doute de Gallagher. Et probablement que celui qui a été le meilleur depuis le début de la saison, Jeff Petrie, hier, il a été atroce. Fait que là, même tes meilleurs sont même plus capables de bien performer. C'est ça le drame pour le Canadien. Et sérieusement, depuis hier soir, je vais te dire, 20h10, je pense que Claude Julien est en danger.
OK. Sa tête risque de rouler.
Je pensais pas ça.
OK.
Aller jusqu'à hier. Là, la pression va être forte. La pression va être forte, puis Marc Bergevin, il reste peut-être une chance de congédier un coach dans sa vie. Après ça, c'est lui qui va prendre le bord. Fait que je te dirais que la défaite d'hier remet beaucoup de choses en question, et j'ai hâte de voir la suite.
C'est quoi le prochain match?
C'est New Jersey demain au Centre Bell.
Okay.
New Jersey, c'est pas une grande équipe. Faudrait pas que ça finisse 4-0 New Jersey.
Il faudrait pas. Merci beaucoup, Dan.
OK, j'en suis mort, tantôt.
À tout de suite. J'attire votre attention sur le Journal de Québec ce matin qui présente un sondage léger, le Journal de Québec. Et il y a quelques petites observations que j'ai faites que je trouve amusantes ou en tout cas pertinentes pour le portrait politique présentement au Québec. D'abord, la principale nouvelle, c'est que la CAQ perd des plumes un petit peu dans les intentions de vote. Il caracolait à 44% des intentions de vote quand on regardait en mars 2019. Et là, ils en ont perdu 6 points dans les derniers mois pour tomber à 38%. Vous allez me dire, ils sont encore très confortables dans leur avance. C'est absolument vrai. Il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir de leur côté. Ils sont encore très loin devant les libéraux qui sont deuxièmes, mais ils ont quand même perdu quelques points de pourcentage. Est-ce qu'on peut attribuer ça, par exemple, à la débandade en immigration de Simon Jolin-Barrette, à certains moments où est-ce qu'ils ont moins bien paru? Probablement. On a longtemps parlé d'une longue lune de miel pour la CAQ. Là, peut-être qu'on est en perte de vitesse un petit peu de ce côté-là. Les libéraux sont en augmentation de 6%, donc ce serait probablement les gruger des points de pourcentage à la CAQ dans les intentions de vote, parce qu'ils sont passés de 21% à 27%. Le PQ, Parti québécois, ça me surprend un peu, pourquoi ils sont en hausse, fouillez-moi, là, mais 4% de hausse à 19%, alors que dans l'actualité, ils prennent pas tant de place que ça. Et Québec solidaire, et ça, c'est l'autre élément intéressant à observer, ils sont en baisse de 5%. Ils étaient à 15%, ils sont rendus à 10%. Alors là, est-ce qu'on pourrait... Ben là, ça, c'est moi qui lis entre les lignes. Peut-être que vous allez dire que j'ambitionne un peu dans mes analyses, là. Mais est-ce que les frasques de Catherine Dorion avec son habillement puis tout ça, ça pourrait avoir fait réfléchir certaines personnes de voter pour Québec solidaire, de donner leur confiance à Québec solidaire? Peut-être. Est-ce qu'on peut voir aussi que ce vote-là serait allé du côté du PQ, donc d'un parti indépendantiste à l'autre? Peut-être que c'est ça aussi, parce qu'on baisse de 5% du côté de Québec solidaire et on monte de 4% du côté du PQ. Alors, baisse de la CAQ, baisse de Québec solidaire, montée du PQ et montée des libéraux. L'autre question qui était intéressante dans le sondage, c'est les personnalités que les Québécois voient à la tête du Parti libéral et du Parti québécois, qui sont tous deux présentement dans une course à la chefferie. Chez les libéraux, le candidat qui aurait, en fait, c'est pas un candidat, mais la personnalité que les gens verraient le plus à la tête du Parti libéral, c'est Denis Coderre, qui est pas là en passant dans la course, là, mais c'est Denis Coderre qui ressort. Deuxième, c'est Dominique Anglade. Bon, là, la bonne nouvelle, c'est qu'elle est là. Troisième, Alexandre Cusson à 8%. Quatrième, Pierre Moreau à 5 % Pierre Arquin 3 % ben lui, à toute fin pratique, peut pas être là parce qu'il est chef intérimaire. Et par la suite, ben, c'est des petits pourcentages, 1-2 % Et chez le PQ, ben, c'est pas une très bonne nouvelle parce que présentement, celui qui s'est lancé dans la course, c'est Sylvain Godreau. Et il est pas vraiment haut dans la confiance des gens pour le voir à la tête du Parti québécois. Le premier qu'on nomme, c'est Pascal Bérubé, mais encore une fois, il est disqualifié parce qu'il est chef intérimaire. 15 % des gens aimeraient le voir à la tête du Parti québécois. Deuxième, je trouve ça curieux aussi que les gens le mettent là, mais c'est Yves-François Blanchette à 13 % mais lui, il est chef du Bloc québécois, il est à Ottawa, donc il s'en viendra pas à la tête du Parti québécois. Pierre-Carl Péladeau, il y a des gens qui voudraient son retour, 12 % à la tête. Véronique Yvon à 10 % Alexandre Cloutier à 8 % Et Sylvain Godreau seulement à 5 % Donc, pour l'instant, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne suscite pas beaucoup d'enthousiasme, M. Godreau, malgré le fait qu'il se soit lancé officiellement dans la course à la chefferie du Parti québécois. 5h25, c'est tout pour cette amorce du 27 novembre. Merci d'avoir été là. Demain, on se reparle dès 5h. Dans quelques minutes, c'est Bouchard en parle qui commence. Ciao!
Les meilleurs moments sont disponibles maintenant sur fm93.com. Bouchard en parle commence après cette courte pause.